Frédéric Falcon pour ce 29e Radiobarque de notre 9e saison. Dans une deuxième partie, on va lister un certain nombre de positions et de choses que vous avez faites, alors à l'Assemblée nationale, puisque un député est fait pour ça, mais également sur le terrain. Tout d'abord, une prise de position qui a abouti. Alors, je ne sais pas exactement, c'est pas une loi, c'est pas une proposition de loi, mais c'est une inscription dans la Constitution du droit de recours à l'avortement pour les femmes. Ça a été donc voté, vous avez voté pour, vos deux collègues de l'Aude, par exemple, messieurs Rancoul et Barthez, ont voté contre, ainsi que l'ensemble, je crois, du RN. D'abord, expliquez-nous pourquoi vous avez voté pour et expliquez de quoi il s'agit, parce que c'est pas simple pour le quilam moyen.
C'est-à-dire que le gouvernement a proposé de transposer dans la Constitution le droit à l'avortement, donc la loi Veil. Enfin, pas la loi Veil, le droit à l'avortement, pour être précis. Donc, le gouvernement est un petit peu dans une stratégie de diversion, c'est-à-dire que il essaie d'imposer tout un tas de thèmes sociétaux pour essayer de faire oublier l'actualité sociale et économique qui n'est pas forcément à son avantage.
Oui, alors pour vous, c'était pas utile de faire ça.
Non, alors nous pensions que la loi Veil était suffisante et qu'il n'y avait pas de débat, parce que c'est vrai que cette transposition est inspirée directement de ce qui se passe aux États-Unis, où là, effectivement, vous avez des remises en cause selon les États.
Oui, remises en cause par la Cour suprême du droit à l'avortement.
Et ce que nous dénoncions en parallèle de ça, c'est cette influence constante des débats américains sur la France sur des sujets qui ne sont plus des sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne remet en cause le droit à l'avortement en France. Donc, on n'aime pas trop cette espèce d'emballement médiatique, parce que c'est venu de ça. Hein. Vous avez eu tout un emballement médiatique avec la Cour suprême américaine qui remettait ce droit en cause. Donc moi, naturellement, j'ai souhaité voter pour.
Mais pour vous,
j'ai tout de suite pensé que c'était un piège de la majorité qui essayait
de la diversion,
de nous enfermer. C'est une forme de diversion, sachant que bon, il est toujours possible, la loi a le dernier mot, et que ça soit dans la Constitution ou non, les conditions d'accès à l'avortement peuvent être revues de tout un tas de façons avec la loi. Donc ça me semblait être assez gadget. Mais bon, par principe, je n'y suis pas opposé, donc j'ai souhaité voter pour, parce que j'ai compris que c'était un piège qui était dressé par la majorité.
Oui, cela dit, donc, une grande partie de vos collègues... Donc,
pour ces raisons-là, beaucoup de mes collègues ne sont pas opposés à l'avortement, je vais les défendre un peu, c'est simplement qu'ils estimaient que c'était une mesure un peu gadget.
Oui, mais vous êtes, si je puis dire, désolidarisé donc de l'ensemble des autres. Est-ce ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, c'est pas l'image qu'on en a, qu'au Rassemblement national, vous avez le droit de voter différemment de votre groupe?
Sur les sujets de société, on n'est pas toujours raccord. Voilà, il y a des divergences, il y a des nuances, il y a tout un tas de positions qui sont pas forcément de nature à créer un vote global qui va dans un seul sens. Donc sur les questions de société, les questions un peu clivantes, il y a une liberté de vote en général. Et vous aurez sans doute ce cas-là pour le droit à mourir, la proposition de loi qui arrive, le projet de loi qui arrive sur la fin de vie,
oui.
Effectivement, là le groupe est également clivé, comme beaucoup d'autres groupes d'ailleurs, hein, c'est pas propre à
oui, mais ça n'est pas l'image que donnait jusque-là le Rassemblement national.
Vous savez, on a une liberté de vote qui, enfin, globalement, on vote d'un seul tenant, enfin tous d'un même tous de la même façon.
De manière cohérente.
De manière cohérente, parce que, bon, il y a des sujets, sur les sujets de fond, on est tous à peu près d'accord. Par contre, sur les sujets de société, il y a parfois des divergences. Et là, il y a une liberté de vote qui est tolérée.
Oui. Alors, autre prise de position, vous allez nous l'expliquer, Frédéric Falcon. Alors, on sait qu'à la suite du Covid et de la vaccination anti-Covid, un certain nombre de soignants qui le refusaient avaient été écartés. Le gouvernement a décidé de les réintégrer, et vous avez pris position pour cette réintégration depuis un certain temps. Quelle est votre position là-dessus? Parce que ça peut sembler aussi bizarre. Si on analyse, ce sont des gens qui ont refusé la vaccination, ce qui est leur droit, mais qui, en quelque sorte, vendent de la médecine, sont dans ce métier-là. Et ça peut paraître contradictoire, voire incohérent.
Alors, le Rassemblement national a toujours été opposé à la vaccination obligatoire. pour les soignants et les personnels concernés, parce qu'il n'y a pas seulement les soignants, vous avez aussi les militaires et les pompiers. On a toujours été opposé à cette mesure. Moi, j'ai porté ce débat avec une proposition de loi qui visait à les réintégrer, qui a été soutenue largement par mon groupe. Il se trouve que le gouvernement, enfin, acculé, le dernier pays quand même, la France est le dernier pays au monde à avoir imposé cette obligation, a dû revenir sur sa position le 13 mai dernier avec un décret suspensif. Donc c'est un décret suspensif, la loi n'est pas abrogée. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le gouvernement pourra, s'il le souhaite, imposer de nouveau la vaccination obligatoire. Nous voulons son abrogation pure et simple. Il se trouve que les communistes ont pu faire voter une proposition de loi qui abroge complètement la vaccination obligatoire. Donc elle a été votée à l'Assemblée, cette loi, avec le concours du Rassemblement National. Il y a la navette parlementaire qui va se faire, on verra ce que ça donne. Toujours est-il que on estime que ça ne se justifie plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la vaccination n'empêche pas la transmission et que le vaccin est de moins en moins efficace au fur et à mesure de l'arrivée des variants, nous estimons qu'il n'est plus acceptable d'imposer cette obligation. Et je rappelle que beaucoup de pays n'ont pas fait ce choix, notamment l'Espagne voisine, qui n'a jamais imposé la vaccination obligatoire auprès des soignants.
Oui, mais faut-il toujours...
Ce n'est pas un débat médical. C'est-à-dire que nous nous plaçons sur un débat politique et philosophique, juridique. Ce n'est pas un débat sur la science. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Je vois ce qui se fait ailleurs. Je vois qu'un certain nombre de pays n'ont pas imposé cette obligation, que ça se passe plutôt bien, et que ça nous a coûté, en termes de ressources, un certain nombre de postes vacants, alors que la majorité du pays est un désert médical, la Narbonnaise comprise.
Oui, évidemment, il y avait ce côté-là qui est prêché en faveur d'une réintégration de ces gens-là. Mais toujours est-il que c'est difficile à expliquer sur le plan, justement, alors scientifique, médical, ça semble...
Alors, moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Tout ce que je vois à partir du moment où on m'explique que la vaccination n'empêche pas la transmission et que plus on avance, plus les nouveaux variants font que ce vaccin devient de moins en moins efficace. Je rappelle quand même que 80% des soignants n'ont pas de schéma vaccinal à jour aujourd'hui. Donc ça devient intenable.
Donc voilà.
Je pense simplement qu'il faut, c'était une période qui était difficile. Il y a eu des positions des deux côtés. Voilà. Il y a des gens qui ont pensé que c'était une bonne chose. D'autres qui pensaient que c'était coercitif. Là, aujourd'hui, on a le recul. Heureusement, la maladie a vraiment, vraiment décliné. On n'est plus dans la situation des années 2020-2021. Il suffit simplement de passer à autre chose et de réconcilier les Français, ne plus les opposer avec cette affaire de vaccination.
C'était
l'objectif. On passe à autre chose.
On passe à autre chose.
Il y a des pays qui sont revenus avec des gouvernements qui ont présenter leurs excuses, qui ont dit écoutez, nous on pensait que c'était une bonne solution, finalement on s'est rendu compte que c'était pas le cas, on passe à autre chose. Mais le problème avec ce gouvernement et Emmanuel Macron, ce sont des gens qui ont des égos qui sont surdimensionnés, qui refusent de voir leurs échecs ou leurs torts.
Non. On prend acte, monsieur Falcone. Alors d'autres prises de position qui peuvent, là encore, selon ce qu'on croit soi-même, peuvent surprendre. L'éolien. Alors, on est dans un département où il y a beaucoup d'énergie éolienne, beaucoup d'éoliennes qui sont en fonction. Je crois que vous semblez un petit peu remettre en cause la suite. Je dis bien la suite.
C'est-à-dire que j'estime que notre département est déjà saturé d'éoliennes. Voilà. Donc, il y a un projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale qui veut accélérer l'installation des éoliennes. L'énergie éolienne ne représente que 1,5% de la consommation primaire d'énergie en France. Donc on peut doubler, si on veut demain, le nombre d'éoliennes. On arrivera peut-être à 2,5-3% de la consommation primaire. Donc j'estime que notre territoire est saturé d'éoliennes, que trop c'est trop. On a déjà aussi un site nucléaire, on a Orano avec le traitement de l'uranium. Je trouve aussi que ces lobbies industriels ont des comportements qui sont parfois discutables avec un certain nombre de communes, c'est-à-dire que ils promettent des retombées économiques à des communes alors qu'on sait très bien que dans la plupart des cas les promesses sont peu suivies d'effet. Et le problème, c'est que cette densification d'éoliennes a un coût aussi pour les Audois et les Narbonnais. C'est-à-dire que vous avez notamment un projet à Névian qui pose un certain nombre de problèmes avec des éoliennes qui sont de plus en plus rapprochées des habitations, ce qui implique des décotes immobilières, ce qui implique des nuisances, ce qui implique tout un tas de tout un tas de nuisances. Donc, je suis pas opposé aux énergies renouvelables, mais il faut que ça soit organisé dans un cadre strict. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où ça devient n'importe quoi.
Ça vous semble un petit peu, voilà, débordé. Là, on parle d'éolien terrestre.
Oui.
Alors, il y a l'éolien flottant tel qu'il se profile à Port-la-Nouvelle. Comment le voyez-vous, ça?
Moi, je l'ai dit, j'y suis opposé. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est d'imposer des
Ça,
milliers d'éoliennes.
c'est pas un projet Macron, ça, l'éolien flottant, il remonte à avant Macron.
Oui, il est soutenu. Alors, vous avez raison, mais il est soutenu également. Il est porté par par ce mouvement d'installation d'éoliennes qui vont se déployer en mer sur les côtes françaises. Moi, j'y suis opposé parce que l'éolien, je pars du principe que c'est une énergie qui n'est pas rentable. Voilà, elle est subventionnée.
Oui, aujourd'hui,
aujourd'hui. Elle est
mais
subventionnée.
dans certains pays, elle joue un rôle beaucoup plus important.
Alors ça, c'est un long débat. Je peux le développer ici. L'éolien n'est pas une
Vous pensez
énergie
que ça ne sera
rentable.
jamais rentable pour vous?
Aujourd'hui, ça n'est pas rentable. C'est subventionné par des taxes sur les factures
Oui, c'est du
d'électricité. Et je trouve que
volontarisme.
le coût est lourd pour les territoires qui acceptent ces projets et qui en retour, ont peu de retombées. Parce que bon, si vous prenez un projet terrestre, selon comment sont négociés les contrats, c'est quelques dizaines de milliers d'euros pour une commune finalement. Mais qu'est-ce que c'est
Oui,
quelques dizaines de milliers d'euros par an quand vous évaluez le préjudice pour les
oui.
riverains en termes de décote immobilière, en termes de nuisances, en termes de pollution visuelle. Donc, je pense qu'on pourrait se passer de ça. Mais encore une fois, ce n'est pas une opposition à toutes les énergies renouvelables. Il faut que ça soit bien maîtrisé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de communes où ça se passe bien l'éolien. Je
Oui,
vais être honnête. Il y a
oui,
des communes qui acceptent comme à
oui,
Fitou. Je me suis rendu dernièrement des projets éoliens sans difficulté. À partir du moment où c'est imposé de façon concertée avec les habitants, que tout le monde est content, j'ai pas de problème avec ça. Et vous avez aussi le photovoltaïque qui arrive
Oui,
en
alors
puissance.
j'allais dire, bon, pareil, vous avez pris une position récente, si j'ai bien compris. Alors, je dirais pas contre le photovoltaïque, mais contre certains projets.
Absolument, le photovoltaïque chez nous, je pense que ça peut être une énergie renouvelable d'appoint pour un certain nombre de foyers. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de difficultés pour l'installation de panneaux photovoltaïques avec des contraintes urbanistiques qui sont fortes, notamment les bâtiments de France qui bloquent beaucoup de projets. Ça me pose un vrai problème parce que c'est comme un vrai gain en termes de ressources à une
C'est-à-dire que
période.
vous êtes pour à petite échelle.
Je suis pour l'installation de panneaux photovoltaïques de façon maîtrisée. Je trouve que parfois, c'est très contraint par la réglementation, malheureusement.
Oui,
J'aimerais
trop.
plus de souplesse. En revanche, l'installation de champs éoliens, comme par exemple à Villedaigne, il y a un projet qui est démesuré, qui est très proche des habitations.
De champs
Ça,
solaires, vous voulez dire, de photovoltaïque.
pardon, de champs photovoltaïques proches des habitations, limite dans le village, là, ça me pose un vrai problème. Encore une fois, c'est une question de mesure et d'organisation, c'est pas une question d'opposition de principe.
Oui. Et
Et toujours est-il que j'insiste là-dessus. Je trouve que les industriels, ces lobbies du renouvelable, se comportent de façon parfois agressive avec les communes, qui sont parfois prises à la gorge et qui n'ont d'autre choix que d'accepter certains projets pour gagner quelques dizaines de milliers d'euros par an de rentrée fiscale ou de dotation. Et c'est ça que je trouve injuste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communes qui sont prises à la gorge, qui n'ont d'autre choix que d'accepter ces projets.
Oui, vous pensez que finalement la politique qui avait été utilisée au début pour l'éolien est reconduite pour le photovoltaïque?
Alors l'éolien est déjà ancré depuis longtemps dans le territoire et c'est vrai que le photovoltaïque a un petit peu de retard, notamment dans
Oui.
notre région. Donc les industriels sont beaucoup plus agressifs. Et là encore, il faut que ce marché soit bien encadré. Il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens aussi qui font n'importe quoi, hein,
Non.
qui démarchent des particuliers.
Oui,
Là,
au niveau des particuliers.
il faut
Oui.
aussi les protéger de ces convoitises. Donc c'est une question de d'harmonie finalement,
Voilà, mais
plutôt qu'une opposition de principe. Je le redis, je ne suis pas anti-énergie renouvelable.
même si votre mouvement, le RN, est quand même favorable plutôt au nucléaire.
Ben, c'est-à-dire que le nucléaire est un.
Il est en place déjà.
Il est en place, mais il a subi quand même une politique de démantèlement, de sabotage depuis ces 20 dernières années. D'ailleurs, il y a une commission d'enquête à laquelle j'ai participé qui l'a mise en lumière. Et les menaces de coupure que nous avons eues ces derniers mois sont en partie liées à cette politique de sabotage qui est purement idéologique.
On marque, Frédéric Falcone, une seconde pause. On se retrouve dans une troisième partie où on va découvrir un petit peu plus vous, l'homme Frédéric Falcone, et son engagement politique. À tout de suite.